accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et toutes, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe d'Accent d'Europe, Françoise Grelot, Frédéric Lebel, Catherine Roland et moi-même, avec pour bien commencer cette nouvelle année la dégustation d'un nouveau type de chocolat, le chocolat rubis. Vous aviez peut-être déjà entendu ce reportage ainsi que ceux qui suivront. La couleur de ce chocolat, forcément belge, est naturellement rose, issue d'une fève particulière. La recette bien sûr est tenue secrète, elle a été inventée dans la plus grande chocolaterie du monde, à Visé. En Belgique. Reportage de Laxmi Lota.
Donc c'est la noisette, mais les autres il y avait des fruits.
Les autres il y avait des cranberries.
Tout enrobé de chocolat.
Dégustation en avant-première des gourmandises préparées par le chef pâtissier chocolatier français Martin Diez. Il découvre le chocolat rubis et le travaille depuis 6 mois. C'est un chocolat sensuel selon lui.
C'est un chocolat qui correspond vraiment à mon palais. Il est ni trop amer, il est pas sucré, il est vraiment sur l'acidité. On a des ressentis de notes de fruits qui sont assez particulières. Pour un chef, en termes de mariage avec n'importe quel autre ingrédient, c'est quelque chose d'assez unique. Par exemple, les petits napolitains, comme vous pouvez les voir, qui sont des tablettes de 12 grammes, je les ai revus sous forme de rouge à lèvres. L'idée, c'était vraiment de sortir le rouge à lèvres de son étui et de déguster le chocolat comme le rouge à lèvres. Ça vous amène également un côté assez sensuel lors de la dégustation.
C'est sucré.
Petit bout d'acide.
Un goût exceptionnel. Je n'ai jamais goûté un goût pareil. C'est très bien.
Je les pose délicatement sur la plaque chauffante de manière à aplatir le dessous. Pour éviter que...
Nous sommes dans la plus grande chocolaterie au monde. Ici est né le chocolat rubis après 13 ans de recherche dans un laboratoire. Inutile de chercher le secret, il est bien gardé. Cornel Warlop, porte-parole de la société suisse Barry Calbo.
Il y a seulement quelques dizaines de personnes qui connaissent l'existence de ce secret. Et donc, nous, on est très fiers et on veut vraiment garder ce secret dans le monde du chocolat. Même moi, je ne connais pas le secret.
Cette société est issue de la fusion entre le chocolatier belge, Calbo, et le français, Barry. Les fèves proviennent de plusieurs régions du monde, notamment de Côte d'Ivoire, du Brésil ainsi que d'Équateur. Chaque fève contient plus de 20 000 composants. De nombreux tests ont été effectués. Cornel Warlop.
Il y a 20 000 molécules dans chaque fève. Et donc, pour vraiment rechercher les caractéristiques qui facilitent la couleur et le goût, il faut vraiment beaucoup de recherche, il faut vraiment une capacité énorme pour vraiment rechercher quelles compétences, quelles caractéristiques font bien avec les goûts existants, avec le palais des consommateurs. Et donc c'est pour ça qu'on a pris 13 ans de recherche.
L'idée c'est de créer le succès que le macaron a eu dans le milieu de la pâtisserie et de ramener ce succès-là dans l'environnement de la chocolaterie.
Pour déguster ce chocolat en Europe, il faudra attendre encore quelques mois, probablement un an, le temps de le conditionner et le mettre en vente. Et pour ceux qui se laisseraient tenter, le chef prévient.
On commence vraiment une dégustation dans la douceur, dans le crémeux, et on finit avec de l'acidité. Et c'est tellement intriguant que si on aime ce produit, on a envie d'en reprendre. Pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment assez addictif en fait.
Avec l'acidité du chocolat rubis, puisque c'est la première chose qu'on a en bouche, c'est le chocolat rubis qui est autour du volcano. On va poursuivre avec l'acidité de la compotée framboise. Il y a le croustillant qui va nous aider également à prolonger la dégustation. Et on va finir vraiment avec la douceur du coco qui va nous aider à créer cette symphonie du goût et avoir une dégustation qui soit mémorable.
Le reportage de Laxmi Lota à Visé en Belgique.
Jardinier confirmé ou jardinier amateur, il existe toute une gamme de graines de fleurs. Vous trouverez aussi des assortiments de graines variées, salades, tomates, courgettes, radis, carottes, choux.
Si les Européens aiment découvrir de nouveaux types d'aliments comme le chocolat rubis, ils sont aussi de plus en plus critiques sur leur mode de production. Particuliers et producteurs remettent désormais en question le système productiviste mis en place après la Seconde Guerre mondiale, avec un retour aux sources dans les modes de culture. Le bio est devenu l'idéal, mais certains petits producteurs et particuliers vont encore plus loin. Ils font revivre de vieilles variétés de fruits et légumes et même de blé. Reportage au Royaume-Uni de Marie Billon.
C'est l'effervescence dans cette petite école de la ville balnéaire de Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre. Ce n'est pourtant pas un jour de classe, ni même une rencontre parents-enseignants. On est dimanche, c'est Seedy Sunday, comprenez le dimanche de la graine. Chaque année, depuis 17 ans, des jardiniers et cultivateurs amateurs pour la plupart viennent échanger leurs graines. Alors pourquoi échanger plutôt qu'acheter ? Victoria Benson, l'une des organisatrices, a la réponse.
L'avantage d'échanger, c'est qu'on se retrouve surtout avec des graines qui ont déjà été cultivées dans les environs. Nous savons donc que le sol et le climat leur conviennent. On peut aussi avoir des variétés anciennes qui ne sont plus disponibles auprès des grands distributeurs qui, eux, se concentrent sur les variantes offrant les meilleurs rendements. Et puis, il y a la question des règlements européens. Puisqu'on n'échange pas d'argent, on peut légalement proposer des graines qui n'ont pas passé tous les contrôles.
Des dizaines de cajots sont posés sur les bureaux d'écoliers à l'intérieur des centaines de petites pochettes en papier qui renferment les graines.
Là, vous avez par exemple les légumes, les pois et les... Alors, les petits pois, on a des caroubis de Mossan qui sont relativement vieux. Mon arrière-grand-père en faisait pousser. Il y a pas mal de graines qui ont été développées au 19e, 20e siècle surtout.
Rose vit en Angleterre depuis 40 ans. Après avoir travaillé comme enseignante à Londres, elle passe sa retraite au bord de la mer, s'occupant de son petit jardin chez elle et du lopin de terre qu'elle loue dans un jardin ouvrier local. Volontaire à Seedy Sunday, elle est toujours à l'affût de la variété de graines qu'elle n'a encore jamais tenté de faire pousser.
Oui, on a des variétés de carottes violettes. Les carottes n'étaient pas toujours oranges. À l'origine, elles étaient jaunes et violettes. Au XVIIIe siècle, les Hollandais ont commencé à développer les carottes oranges parce qu'en Angleterre, on avait Guillaume d'Orange qui est devenu le roi. C'était la mode à l'époque, tout était orange et tout avec Guillaume d'Orange. Il venait donc de Hollande. Et en fait, certaines variétés n'ont pas disparu et on essaye de les conserver. Bon, évidemment, ce n'est pas des grosses carottes, mais c'est des carottes.
Il y a aussi des pommes de terre bleues cultivées par les Indiens d'Amérique avant d'être chassées de leur terre, raconte Rose en fouillant dans les nombreux petits sachets.
Look, Douce Provence. On a des Douces Provence et ceux-là, c'est une vieille variété. Les petits pois, quelqu'un nous disait qu'ils avaient ramené des petits pois qui dataient, les petits pois qui dataient de l'époque des pharaons. Mais c'est à vérifier. Parce que, d'une part, les petits pois, c'était certainement pas des graines qui dataient de l'époque des pharaons, sinon elles seraient dans un musée. À savoir si elles seraient encore viables, on ne sait jamais, parce que certaines graines ont été gardées pendant des années et des années. Bon, à part ça, non, moi je pense que la plupart des variétés les plus anciennes datent à peu près du 19e siècle, milieu 19e siècle.
Information à prendre avec des pincettes, parfois donc, ou alors prière de se référer à l'un des divers catalogues de graines. Nous quittons justement la salle polyvalente pour nous rendre au gymnase. Là, ce sont des dizaines d'exposants qui vendent les fruits et les légumes de leur labeur. Mais le petit sachet de graines, le roi de la journée, est encore là, sur l'étal de la Heritage Seeds Library, comprenez la librairie des graines anciennes.
Bonjour, je suis Neil Monroe, le manager de la Heritage Seed Library. Nous maintenons environ 800 anciennes variétés de légumes. Nous fonctionnons un peu comme une bibliothèque. Quelqu'un vient nous emprunter des graines, les cultive, elles se multiplient et il nous les rend ensuite. Nous avons 200 volontaires à travers le Royaume-Uni qui cultivent ces graines pour nous. Car le but n'est pas de les garder dans nos frigidaires, mais que les gens les plantent et nous disent ensuite l'utilisation qu'ils en ont fait.
Nous quittons Seedy Sunday et la ville balnéaire de Brighton pour aller rencontrer Andrew Forbes. Ces graines, il les récupère auprès d'un autre organisme de conservation. Il les cultive dans son jardin ouvrier situé au sud de Londres, dans le quartier de Lambeth South. Et ce que ce boulanger de métier fait pousser, c'est du blé.
Nous avons ici du Red Lama, appelé aussi le blé rouge anglais. C'était une variété très populaire jusqu'aux années 1830. On l'utilisait pour faire du pain au 18e et 19e siècle. mélanger à un autre blé qu'on a ici et qui avait pour but surtout de blanchir la mie. Là-bas, on fait pousser du Old Kent Red, du blé rouge du Kent, mentionné déjà en 1630 par le premier botaniste anglais sérieux, John Ray.
Andrew Forbes a créé l'association Brockwell Bread en 2008 pour revenir à ce qu'il appelle le vrai pain. Fait avec du blé local, cultivé sans pesticides, c'est à la fois par passion pour les traditions et pour la qualité qu'il a décidé de faire pousser des vieilles variétés de blé, mais pas seulement.
Dans ce pays, on fait pousser du blé pour la quantité, donc on a perdu plusieurs choses au change, et notamment le goût. Mais aussi le gluten dans ces variétés modernes, car il a muté pour devenir plus costaud. Donc, nous pensons que certains des problèmes que les gens ont pour digérer le blé de nos jours pourraient être liés à cette évolution du gluten dans les variétés modernes. Aussi, les anciennes variantes, qui sont plus grandes, ont un contenu en sels minéraux plus élevé, car elles vont les chercher plus profondément dans le sol.
Andrew aura une récolte suffisante pour commencer à faire du pain avec son propre blé d'ici 1 à 2 ans. Il espère modestement que son vieux blé aura contribué à trouver une solution aux intolérances alimentaires des temps modernes.
Le reportage de Marie Billon qui a pu germer grâce au soutien de la Commission européenne.
Alto 57 metri, di forma ellittica, il Colosseo poteva accogliere 70.000 spettatori. Nel corso dei secoli, ospitò spettacoli circensi e drammaturgici.
Et oui, c'est sans doute le monument le plus connu de Rome avec la basilique Saint-Pierre. Symbole de la puissance de l'Empire romain, le Colisée attire toujours plus de visiteurs. Après sa restauration qui a permis de le nettoyer de la pollution, l'amphithéâtre antique dévoile depuis le 1er novembre un de ses aspects inédits. Pour la première fois depuis 40 ans, ses derniers niveaux, où siégeait la plèbe, sont désormais ouverts au grand public. Olivier Bonnel en a fait l'ascension.
Pour découvrir un géant d'en haut, cela se mérite. Une première volée d'escaliers en briques nous conduit au troisième niveau de l'amphithéâtre flavien, l'autre nom du Colisée. Gabriella Gatto travaille à la protection des biens culturels de la ville de Rome.
Jusqu'ici, les groupes qui venaient visiter le Colisée s'arrêtaient là où nous sommes. Ils prenaient une photo et redescendaient vers l'arène.
Encore quelques efforts pour arriver au quatrième et cinquième niveau. Et c'est une vue inédite qui embrasse les entrailles du monument, icône de la ville éternelle, le plus grand amphithéâtre jamais construit sous l'Empire romain, bâti entre 70 et 80 après Jésus-Christ, pouvait rassembler jusqu'à 75 000 spectateurs, hurlant au rythme des combats de gladiateurs ou d'animaux sauvages. À presque 40 mètres de hauteur, le point de vue est stupéfiant sur la Rome antique alentour, les forums romains et la colline du Palatin, mais aussi plus loin, la Rome moderne et ses quartiers d'affaires. Et partant dégagé, le regard s'en va même jusqu'à la mer. Michele est guide touristique.
Nous sommes ici au cinquième niveau de l'amphithéâtre flavien et on a une vue sur l'arène comme l'avaient les plus pauvres, là où se trouvaient les femmes et les esclaves venus assister au spectacle. Ce que l'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec le passé, car à l'époque, l'arène était recouverte de sable et au-dessus de nous se trouvait le velarium, une immense tenture qui faisait de l'ombre aux spectateurs. C'est un point de vue complètement nouveau et ce qu'on voit là est merveilleux. C'est émouvant. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de découvrir sous un jour nouveau un monument qui a 2000 ans.
Augusto Romolo Staccioli est l'un des historiens les plus célèbres de la Rome antique. Il est né et a grandi à l'ombre du Colisée que l'on peut presque apercevoir des fenêtres de son appartement.
Le Colisée est unique, il est tellement extraordinaire. L'amphithéâtre le plus important de l'Empire est bien sûr celui-ci, celui de Rome, et il est normal qu'il soit devenu le symbole de la ville. Peu de gens savent que le Colisée a été construit en partie là où il y avait un petit lac, une zone humide asséchée par Néron quand il a construit sa résidence. C'est important car c'est ce qui explique l'état actuel du monument, avec cette partie sud effondrée, alors que la façade nord est restée debout.
Comme le serait la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, le Colisée est devenu le symbole de Rome dans le monde entier. L'an dernier, près de 7 millions de visiteurs se sont pressés voir le monument, avec son revers inévitable, l'exploitation mercantile. Si les faux gladiateurs inquiétant le touriste ont été chassés des abords du monument, le Colisée reste néanmoins fragile. Il y a 3 ans, le président de l'AS Rome, le club de foot de la ville, a fait part de son rêve d'y organiser un jour un match de foot contre le FC Barcelone, une hérésie pour notre historien.
Le Colisée doit rester un monument de Rome et des Romains. D'ailleurs, même si les étages supérieurs viennent de rouvrir, je n'irai pas, en signe de protestation. Car moi, au Colisée, je veux y aller gratuitement. Je ne comprends pas que les Romains doivent payer pour un monument qui est le leur, après tout, qui est au cœur de leur patrimoine. Ils devraient s'y rendre librement et gratuitement.
Avec 5% d'augmentation chaque année, les visiteurs du Colisée sont de plus en plus nombreux. La prochaine étape de sa renaissance devrait être la reconstitution de l'arène, mais ce ne sera pas avant plusieurs années.
Gardez vos yeux fermés. Et écoutez.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Vos auditeurs fidèles ne seront pas surpris de retrouver une habituée de l'émission.
Et oui, c'est même probablement la détentrice du record de passage dans Accent d'Europe depuis 9 ans. Et pour cause, la Norvégienne Anne Brun est une véritable staccanoviste pop et a enregistré une bonne douzaine d'albums depuis le début des années 2000 quand elle s'installe à Stockholm. Y fonde son propre label et s'inscrit assez naturellement dans l'effervescence de la scène suédoise de l'époque. Bien des choses se sont passées depuis pour Anne Brun, des collaborations, des tournées, et puis 16 albums où la compositrice a plié sa voix sublime à des ambiances et des genres très différents. Elle s'attaque à un exercice où beaucoup ont échoué avant elle, l'album de reprise sur Leave Me Breathless. Elle s'amuse à mélanger les classiques folk de Bob Dylan ou Joni Mitchell à des C-pop signés Foreigner ou Mariah Carey. Mais le titre que je vous propose, c'est une belle reprise d'une chanson de Tom Petty en guise d'hommage au chanteur américain disparu, No Reason to Cry.
Du dernier album d'Anne Brun, No Reason to Cry, aucune raison de verser de larmes en effet en ce premier jour de 2018 à l'écoute d'Accent d'Europe, réalisé et mis en onde par Françoise Grelot. À demain.
It's all right.